Et c'est avec un immense plaisir que je vous apprends la reprise de Portrait de femme de notre matrimoine avec Jacqueline Engrave pour cette rentrée 2021. Bonjour Jacqueline.
Bonjour, bonjour Odile. Je dis bonne rentrée à toutes les auditrices et à tous les auditeurs.
Aujourd'hui, vous allez nous parler d'une grande dame, comme toujours, oui. Simone de Beauvoir.
Oui, aujourd'hui je parle de Simone de Beauvoir. Vous me direz que ce n'est pas une inconnue, elle n'est pas méconnue. Mais en fait, on ne peut parler du matrimoine sans évoquer Simone de Beauvoir, qui est peut-être connue des générations anciennes, comme la mienne, mais très peu connue des générations nouvelles et des jeunes générations. Voilà, alors Simone de Beauvoir, c'est une philosophe et écrivaine française du XXe siècle. Elle naît à Paris le 9 janvier 1908 dans une famille bourgeoise aisée, puis ruinée, composée d'un père conservateur avocat et d'une mère à la sévère morale traditionnelle catholique, tout entière orientée pour les filles vers le mariage et la procréation. Elle fait ses premières études dans une institution privée prestigieuse, le cours Adeline Désir, qui est une garantie de moralité stricte, mais non une garantie de qualité d'enseignement. C'est là qu'elle rencontre celle qui va devenir sa grande amie de cœur, Elisabeth Lacoing, dite Zaza. Elles sont les deux meilleures élèves et sont inséparables. 30 ans plus tard, Simone de Beauvoir racontera cette amitié dans le premier volume de son autobiographie « Les mémoires d'une jeune fille rangée » paru en 1958. Dans la dernière page de ce livre, elle décrit la mort de Zaza en 1929 à 21 ans, officiellement d'une encéphalite aiguë. Zaza dit à sa mère, très aimée, en pleurs à son chevet, « N'ayez pas de chagrin, maman chérie. Dans toutes les familles, il y a un déchet. Je suis ce déchet. » Mais pour Simone, Zaza mourait de n'avoir pu se libérer de son éducation qui lui a interdit d'épouser celui qu'elle aimait, le philosophe Maurice Merleau-Ponty. Et elle, Simone, s'est sentie marquée par une culpabilité ineffaçable d'être bien vivante. Elle termine les mémoires d'une jeune fille rangée par cette phrase « Ensemble, nous avions lutté contre le destin fangeux qui nous guettait et j'ai pensé longtemps que j'avais payé ma liberté de sa mort. » De cette époque où elle était environnée de bourgeoises mariées, telle la mère de Zaza, gardienne jalouse de traditions nocives pour les filles, date sans doute son aversion à leur sujet, résumée par cette description féroce que l'on trouve dans le tome 2 du Deuxième Sexe, page 349. Je cite « Leur vaine arrogance, leur radicale incapacité, leur ignorance butée en font les êtres les plus inutiles, les plus nuls qu'ait jamais produit l'espèce humaine. » Or, cette même année 1929, tout va bien pour elle. Elle passe brillamment l'agrégation de philosophie, classée deuxième derrière Jean-Paul Sartre. On apprend par certains jurés que Simone de Beauvoir aurait bénéficié d'un total de points supérieur à celui de Sartre, mais que celui-ci aurait été classé premier, parce que notamment il avait été recalé l'année précédente. Ou est-ce plus vraisemblablement, selon nous, parce qu'il était homme, tout simplement, c'est-à-dire du premier sexe, et Simone de Beauvoir femme, c'est-à-dire du deuxième sexe, selon la hiérarchie des sexes qui prévaut dans notre société patriarcale. De cette époque commença entre ces deux philosophes écrivains surdoués un compagnonnage affectif et intellectuel qui devait durer toute leur vie. En octobre 1931, Simone est nommée professeure de philosophie à Marseille, pour laquelle elle eut, dit-elle, le coup de foudre. Au cours de ses nombreuses randonnées pédestres solitaires en espadrille, elle découvre avec émerveillement la Provence, dont les Alpes du Sud, nos Alpes du Sud, jusqu'au col de l'Arche. Puis elle est nommée à Rouen, au lycée Jeanne d'Arc, et enfin à Paris, au lycée Molière. Se considérant plus écrivaine, romancière que philosophe, elle publie son premier roman, L'Invité, en 1943, en pleine guerre. Mais sa conscience politique ne s'éveille qu'après-guerre, à partir de 1945, lorsqu'elle rencontre Jacques Soustelle, un homme politique influent de l'époque, pour lui demander son aide à la création de la revue d'opinion fondée par Jean-Paul Sartre, Les Temps modernes. à laquelle collaboreront tous les intellectuels du bouillonnant microcosme intellectuel parisien, et ce pendant des années. Simone de Beauvoir passe alors de la seule activité d'écriture qui était pour elle essentielle à une vraie sorte d'activisme militant. C'est un tournant dans sa vie. Alors, autrice, philosophe, romancière, écrivaine engagée, admirable mémorialiste, Simone de Beauvoir est considérée comme l'une des plus importantes théoriciennes du féminisme. Elle a marqué son siècle, et singulièrement les femmes, par les livres qu'elle a écrits. Grâce à son influence, le statut des femmes a plus changé en 50 ans qu'au cours des siècles précédents. Cela démarre en 1949, où à 41 ans, elle publie « Le deuxième sexe », essai ethnologique qui instaurait, bien avant que les mouvements féministes ne se développent en France, une démarche radicale et profonde d'analyse de tous les aspects de la condition féminine dans sa réalité crue. Le deuxième sexe est connu internationalement. C'est un vrai bréviaire du féminisme, révélateur et libérateur à la fois. En plus du diagnostic qu'il pose sur la situation des femmes à travers ces quelques 1000 pages, il propose un programme d'action presque complet. Le premier tome, « Les faits et les mythes », constitue une réflexion sur l'histoire des femmes pour constater l'état d'infériorité de la femme dans nos sociétés. Dans le deuxième tome, « L'expérience vécue », Simone de Beauvoir préconise la libération sexuelle, l'égalité dans l'éducation, la fin de l'asservissement à l'homme, comme on l'a vu, Olympe de Gouges l'a fait avant elle. Elle va jusqu'à contester la réalité de ce qu'on appelle l'instinct maternel, thème qui sera développé plus tard par Elisabeth Badinter. Ce texte s'inscrit donc dans une longue histoire de la pensée féministe qui s'est exprimée depuis la fin du Moyen-Âge, avec Christine de Pizan par exemple. C'est un succès international fulgurant auprès des femmes, mais qui provoque aussi des réactions haineuses et des insultes à l'égard de son auteur, traité de tous les noms. Mauriac écrira à la revue « Les temps modernes »« Je sais tout du vagin de votre patronne ». L'engagement de Simone de Beauvoir à la cause des femmes a été total, notamment de 1968 jusqu'à sa mort en 1986. Mais déjà en 1960, elle a donné au Brésil, à Rio, une conférence sur la condition de la femme. Donc, de jeune fille bourgeoise et uniquement préoccupée d'elle-même qu'elle a été, elle s'est métamorphosée à travers des prises de position politiques et des engagements sociaux en véritable championne de l'émancipation des femmes. C'est ainsi qu'en 1962, à la demande de Gisèle Halimi, avocate, qui défend une jeune Algérienne, Djamila Boupacha, Simone de Beauvoir dénonce dans un article du journal Le Monde les tortures physiques, c'est-à-dire le viol, et morales insupportables subies par la jeune fille de la part des militaires français. On sait que tous les soldats du monde considèrent les femmes comme du butin de guerre. C'est à partir des années 1970 qu'elle milite ouvertement dans le mouvement pour la libération des femmes, le fameux MLF. Dans son propre appartement se tiennent les réunions pour préparer le manifeste des 343. Ce manifeste est signé par 343 femmes réputées et célèbres de tous bords, déclarant avoir avorté illégalement. C'était en fait une stratégie de désobéissance civile pour réclamer avec force la liberté d'avorter. Donc ce texte paraît à la une de l'édition du Nouvel Observateur du 5 au 11 avril 1971 sous ce titre provocateur « Je me suis fait avorter ». Et donc les années 1970 sont des années intenses de ce qu'on appelle la deuxième vague du féminisme, celle axée sur les droits reproductifs, qui s'est préoccupée d'abord de la maîtrise par les femmes de leur corps, donc contraception, avortement, résumée par le slogan « Un enfant, si je veux, quand je veux ». Au cours de ces années, Simone de Beauvoir, de théoricienne pure mais isolée qu'elle était, est devenue une militante parmi les autres. Elle a participé à de nombreuses manifestations et a joué un rôle déterminant dans leur succès avec les féministes organisatrices pour lesquelles elle représentait une autorité morale précieuse. Notamment, en novembre 1972, elle témoigne au procès célèbre connu sous le nom de procès de Bobigny, où l'avocate Gisèle Halimi défend avec succès, puisqu'elle a été acquittée, une jeune fille de 16 ans poursuivie par la justice pour avoir avorté après avoir été violée par un camarade qui l'a dénoncée. Cette attitude arrogante du garçon, sûr de sa supériorité et de son impunité, nous démontrait déjà à l'époque que la méchanceté des hommes à l'égard des femmes qui se défendent de leurs agressions n'a pas de limite. D'ailleurs, le violeur n'a jamais été inquiété. Ce jugement ouvre la voie aux prémices de la loi Veil dépénalisant l'avortement en 1975. Alors, entre-temps, dans les années 1940, 50, 60 et 70, et jusqu'en 1981, elle n'a jamais cessé d'écrire ses romans, dont « Les Mandarins » en 1954, qui reçoit le prix Goncourt, et écrire aussi ses nouvelles et ses mémoires en 5 volumes. Au long des années, le féminisme beauvoirien a évolué et s'est radicalisé. Désormais, elle considère cette libération des femmes comme première et fondamentale pour une révolution globale engendrant de nouveaux rapports entre tous les êtres humains. À l'époque déjà, elle aspirait à ce qu'on appelle aujourd'hui la révolution féministe, qui repense l'ensemble de l'organisation sociale à partir des oppressions subies par toutes les femmes, quelles qu'elles soient. Simone de Beauvoir meurt à Paris le 14 avril 1986 à 78 ans. 5000 personnes suivent ses obsèques jusqu'au cimetière de Montmartre. Des couronnes de fleurs sont envoyées de toute l'Europe, des États-Unis d'Amérique, d'Australie. Depuis sa mort, on a entendu des calomnies à son sujet, le plus souvent par des personnes qui n'ont même pas lu ses livres. Elle n'avait sans doute pas imaginé l'intensité de cette malveillance posthume, bien qu'ayant reçu de son vivant plus que son lot d'injures concernant le deuxième sexe, certes, mais aussi sa vie propre, l'ensemble de son œuvre, soit une vingtaine d'ouvrages, dont on rappelle qu'elle se divise en 3 catégories. Les romans, alors parmi les romans, il y en a 9, je vais en citer un, qui s'appelle « La femme rompue ». Qu'est-ce que c'est que « La femme rompue » ? Simone de Beauvoir disait « La femme rompue est la victime stupéfaite de la vie qu'elle s'est choisie, une dépendance conjugale qui la laisse dépouillée de tout ». Et les essais, donc le deuxième sexe, bien sûr, mais il y en a un autre qu'il faut souligner. C'est un essai de 570 pages sur la vieillesse, écrit en 1970, où elle dit sans embâge que la politique de la vieillesse telle qu'elle est menée en France confine à la barbarie. Et puis les autobiographies, je les cite dans leur intégralité, « Mémoire d'une jeune fille rangée » 1958, « La force de l'âge » 1960, « La force des choses » 1963, « Tout compte fait » 1972, « La cérémonie des adieux » 1981, qui sont parus récemment en 2018 dans la prestigieuse collection de la Pléiade. Donc, pour conclure, je recommanderais la relecture, ou peut-être plutôt la lecture, de cette autobiographie d'une femme libre et terriblement lucide comme remède à la régression actuelle. Voilà.
Simone de Beauvoir était surnommée le Castor. Est-ce que vous savez pourquoi ?
Oui, alors c'est donc ses amis philosophes, Jean-Paul Sartre en premier, qui l'avait surnommée ainsi à cause de la similitude de son nom, Beauvoir, avec le mot « beaver » en anglais, qui veut dire « castor ». Dont elle a les qualités de persévérance, de travailleuse, de constructrice. Les castors construisent leur maison sans cesse et c'est ce qu'elle a fait tout au long de sa vie.
Jacqueline Grave, merci et puis à la semaine prochaine pour un nouveau portrait de femme.
Oui, merci à vous, à la semaine prochaine.
Au revoir.